Voilà, bonjour à toutes et à tous, que Dieu soit béni. C'est toujours une joie d'ouvrir la parole de Dieu ensemble et de découvrir qui est le Seigneur. Vous avez vu, quand Jérémie parle, il y a toujours un feu en lui. Hein, il est passé par le feu. Et je comprends plus que jamais que sa vie, il la veut au service de Dieu. Et il a raison, c'est là l'essentiel. Tout à l'heure, le premier chant que nous avons interprété s'intitulait, qui s'en rappelle? Pas celui qui a fait chanter, hein? Qui s'en rappelle? Ah! Voyez de quel amour, d'accord? Le Père nous a tous aimés. Eh bien, j'aimerais lire avec vous dans la bonne parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, c'est-à-dire la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er. C'est une joie d'ouvrir la parole et puis de parler de celui que l'on aime, c'est-à-dire de Jésus. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1er, et le verset 18. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Parole simple. Expliquer les choses spirituelles à quelqu'un, c'est comme vouloir expliquer les couleurs à un aveugle de naissance. Vous pouvez lui dire, c'est bleu, c'est jaune, c'est violet, c'est rouge, c'est clair, c'est foncé. La personne ne peut pas comprendre. Elle peut essayer d'imaginer, mais elle ne peut pas se rendre compte, parce qu'elle n'a jamais vu. Et le domaine spirituel, c'est la même chose en ce qui concerne les personnes qui ne se sont pas approchées de Dieu. D'ailleurs, le message que Jésus donnait à Paul, « Je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux ». Et avec les yeux de la chair, je ne peux pas percevoir, comprendre les choses spirituelles. Mais la prédication de la parole de Dieu nous permet d'ouvrir les yeux, tout comme ce calendrier avec les versets bibliques qui y sont mentionnés ont permis à ce cousin de pouvoir ouvrir les yeux sur les réalités de la vie. Le désir de Dieu, c'est de communiquer avec l'homme, mais l'homme est comme aveugle, il ne voit rien. David disait, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Nous pensons être quelque chose, être quelqu'un, et en réalité, que sommes-nous ? Peut-être que les quelques détails que je vais vous donner vont vous surprendre, vont même vous choquer, excusez-moi. Si Guy Galifot ne se résumait qu'à de la matière, combien je vaudrais? Entre l'eau de notre organisme, et nous avons beaucoup d'eau dans notre organisme, hein, que nous pourrions récupérer, le phosphore que nous avons, le calcium, le magnésium, l'ivoire, le sucre, le soufre, parce que nous avons aussi du soufre, le fer, le calcaire, la graisse, ça dépend de l'embonpoint. Quelle valeur aurions-nous? Même pas la valeur de 100 euros. Voilà ce que vous valez matériellement. Et une fois mort, vous êtes de la poussière, comme moi. C'est clair, c'est net. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Nous ne sommes rien. Et les gens, aujourd'hui, s'attellent à s'occuper de ce qui est matériel et qui va passer. Mais nous savons, nous, que nous valons plus que 100 euros. Et d'ailleurs, le Seigneur nous le dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et voilà la valeur que nous représentons, c'est l'âme que Dieu a mis en nous, et c'est cette âme que Dieu veut sauver. Nous le comprenons ? Nous ne sommes pas, nous savons que nés de la poussière, nous retournerons à la poussière, à moins que le Seigneur nous enlève avant, ça c'est autre chose, mais la valeur matérielle que nous représentons, c'est pas grand-chose. Avec 100 euros, vous ne payez même pas un vélo. Vous voyez ? Donc la valeur matérielle, elle n'est rien. Mais ce qui fait la valeur, c'est l'individu que nous sommes avec notre âme et notre esprit en relation avec Dieu. Il est bien entendu que si je me coupe le bras et qu'il m'est arraché, Guy existe toujours. J'ai plus de bras, c'est une valeur matérielle, mais mon âme, elle existe, mon esprit existe toujours. Et c'est ça qui est important. Quand nous avons des êtres chers qui ont disparu, qui sont partis pour l'éternité, nous ne nous rappelons pas spécialement s'ils avaient deux jambes, deux bras, etc. S'ils ont des rides ou pas, on se rappelle ce qu'ils ont représenté pour nous, ce qu'ils étaient. C'est ça qui est important. Eh bien, cette âme, Dieu veut la sauver à tout prix. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui est capable de le faire. Comment va-t-il s'y prendre ? Acheter de la matière, tout le monde peut acheter de la matière. Tous les jours, nous achetons quelque chose. Mais acheter une âme, comment l'acheter ? Il fallait, car la Bible nous dit, tout homme est pécheur. Et à partir du moment où le péché demeure dans une personne, cette personne, elle est perdue. Et il fallait que quelqu'un qui n'ait jamais péché puisse venir payer le prix, la rançon, le prix du salut de nos âmes. Or, qui peut dire qu'il est sans péché ? Peut-être nous pouvons dire que nous n'avons pas fait des gros péchés, quoique la Bible ne nous parle pas de gros et de petits péchés. Elle nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Combien faut-il dire de mensonges pour être traité de menteur ? D'accord ? C'est la même chose pour le vol ou tout ce que l'on voudra. Un seul mensonge fait de nous que nous sommes un menteur. Et tout le monde a dans sa vie menti au moins une fois, sans vous blesser et vous offenser. Nous sommes tous pécheurs. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour sauver nos âmes ? Souvent, quand Dieu parle, quand Dieu agit, quand Dieu dit quelque chose, tout ce qu'il dit semble être une folie à nos yeux. J'ai bien dit une folie. Et je vais vous en donner des preuves. Dans l'Ancien Testament, après le déluge, les hommes ont continué à se multiplier. Il y a eu plusieurs tribus, des nomades, etc. Et le péché a continué à se manifester. C'est normal. Comment, disait Job, de deux êtres impurs pourrait-il naître quelqu'un de pur ? C'est insoluble. C'est pas possible. La mère est pécheresse, le père est pécheur. Comment les enfants seraient-ils purs ? Je sais qu'on a dit, c'est la société qui les a rendus comme ça. J'espère que vous avez dépassé ce stade. Parce que vous pouvez vivre tout seul comme un ermite, et le péché sera quand même là. Vous pouvez tout seul vous mettre en colère après vous-même. Tout seul. Alors, comment être débarrassé de cela ? Le Seigneur nous dit, quand les hommes se sont multipliés, que le péché a continué d'être, il a décidé de se révéler aux hommes par un peuple qu'il choisirait, au milieu duquel il se révélerait pour qu'il devienne la lumière de tous les autres peuples. Alors, moi je me mets à la place de Dieu. Qui aurais-je choisi ? Un gars, pleine force de l'âge, 25 ans, 30 ans, 31 ans, je pousse un peu, bien bâti, droit, avec beaucoup de valeur, d'audace, de courage, de force. Puis j'aurais choisi une miss, je ne sais pas laquelle, mais une belle miss, et puis je les serai unis tous les deux. Donc, un beau jeune homme, une belle miss, ils vont avoir des enfants, super. Et ils vont engendrer un peuple extraordinaire. Est-ce que vous croyez que je suis à côté de la plaque quand je dis ça? Parce que vous connaissez la suite. Mais physiquement, humainement, je suis dans une bonne logique. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un petit grand-père par là. Excusez-moi pour les grands-pères, je le suis aussi. Il y a un petit grand-père qui est par là et qui a une crainte de Dieu. Et Dieu se révèle à lui. Et il a une petite femme qu'il aime beaucoup. Elle était belle, même si c'était une grand-mère, parce qu'on lui avait même volé pour la mettre dans un harem. Alors, c'est pour vous dire qu'elle devait être belle. Eh bien, Dieu va prendre ces deux personnes qui n'ont pas d'enfants et va leur dire, c'est de vous que je vais faire naître un peuple. 100 ans et 90 ans. Quand on connaît les risques, bon, je passe sur les détails. Et de cet homme de 100 ans et de cette femme de 90 ans va naître un garçon, un bébé. Et c'est de lui que va commencer le peuple. Et permettez-moi de dire, c'est un peuple qui est à la tête et non pas la queue. C'est pas possible, elle est ridicule votre histoire. Ah oui? Dites-moi, vous n'avez jamais entendu parler d'Israël? Ne dites pas que vous n'avez pas entendu parler, c'est une pierre pesante pour toutes les nations actuellement. Donc Israël existe. Mais l'origine d'Israël, c'est un père de 100 ans qui s'appelle Abraham et une femme de 90 ans qui s'appelle Sarah. Et de ce peuple, Dieu en a sorti un peuple qui est à la tête. C'est une folie, vous ne pensez pas? C'est pour ça que je vous disais, ma logique, c'est différent de ce que dit la Bible. Mais aux yeux des hommes, c'est une folie. Vous comprenez cela? Mais Dieu l'a dit. Pour ça, quand ce que Dieu dit et ce que Dieu fait est une chose, comment les gens le perçoivent-ils comme de la folie? Je voudrais prendre un deuxième exemple. Cette nation est née, elle est amenée pendant 4 siècles en captivité. Je passe sur bien des détails, bien entendu. Et tout d'un coup, Dieu veut délivrer son peuple de l'esclavage. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et à l'époque, l'armée égyptienne était l'armée principale, la plus grande, la plus redoutée de l'Orient, du Moyen-Orient. Dieu va envoyer un libérateur, un Rambo, mitraillette, gilet pare-balles, enfin toute la panoplie du bon guerrier. Non. Il envoie devant l'armée de Pharaon un homme avec un bâton, un berger, qui a appris à ne plus se battre. S'il avait appris à se battre auparavant, il avait appris pendant 40 années dans le désert qu'il n'y était rien. Et Dieu lui dit, c'est toi que j'envoie et c'est toi qui vas délivrer mon peuple de l'esclavage. Vous imaginez un homme qui a 80 ans et qui va trouver Pharaon, il faut que tu laisses aller mon peuple, sinon tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Et tu te prends pour qui toi? Quelque part, il a perdu l'esprit, mais non, c'est Dieu qui l'a dit. Et vous savez tout aussi bien que moi, l'histoire même le confirme, qu'avec un bâton, Moïse, car c'est son nom, a délivré Israël de l'esclavage égyptien. Comment Dieu était avec lui? C'est de la folie faire la guerre comme cela. Non, parce que Dieu l'avait dit. C'est de la folie dans nos logiques à nous. Mais qu'est-ce que notre logique? Je pense à Moïse dans le désert. Il y a le peuple, parmi le peuple, il y a peut-être aussi des Égyptiens qui ont suivi. Il y a toutes sortes de gens. Et à un moment donné, il y a une grande révolte qui se manifeste. Alors Dieu permet que dans le désert, les serpents brûlants du désert puissent mordre certaines personnes. Alors C'est une hécatombe, les gens meurent par milliers, par milliers. Et puis Moïse crie à Dieu, « Aie pitié de ce peuple !» Et Dieu lui dit, « Tu vas faire un serpent d'airain. Tu vas le mettre en haut d'une perche, tu vas mettre cette perche au milieu du camp. Et tous ceux qui seront mordus, qui regarderont le serpent, auront la vie sauve. » Enfin, soyons logiques, ça guérit ça. Imaginez-vous, je vous dis, vous allez à la pharmacie, vous achetez un remède, vous le regardez, vous êtes guéri. Vous allez dire, monsieur Galifot, nous vous aimons bien, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Parce que Dieu l'avait dit. C'est pour ça que je vous dis souvent, ce que Dieu dit, ça semble une folie à notre logique, une folie à nos regards. Mais parce que Dieu l'a dit, c'est vrai. Je pourrais parler également de la manière dont Dieu conduit son peuple dans le pays qu'il lui a promis. Et là, il y a une grande ville à affronter, une ville qui est fortifiée. Les murailles sont hautes, épaisses. Il y a même des maisons sur la hauteur des murailles. Et comment vont-ils s'y prendre? Il n'y a pas de dynamite, pas d'explosion. Les portes, c'est impossible de les défoncer. Comment vont-ils s'y prendre? Dieu dit à Josué, t'inquiète pas, vous allez faire le tour de la ville, simplement le tour. Alors, les habitants de Jéricho sont préparés. Ils ont leurs bassines d'huile bouillantes, ils ont tout ce qu'il faut, les catapultes pour projeter des pierres, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis ils voient l'armée d'Israël qui arrive, elle fait le tour de la ville et elle repart. Ah, les habitants de Jéricho leur disent, ils n'ont pas osé, ils ont eu peur de nous, ils ne s'attendaient pas à cela. Le deuxième jour, ils reviennent, et même chose, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, et la septième jour. Ils arrivent, ils font une fois le tour de la ville, une deuxième fois, une troisième fois, et à la septième, ils chantent. Et au moment où ils chantent, les murailles s'enfoncent. Faire la guerre en chantant, c'est une folie, oui ou non? Mais parce que Dieu l'avait dit. C'est pour ça qu'il y a une différence entre ce que Dieu dit et ce que moi, je peux penser et réfléchir. Bien plus tard, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth, on vient lui dire, celui que tu aimes est malade. Ah, il aimait s'arrêter dans une famille, il y avait deux sœurs et un frère, ils étaient bien reçus, ils aimaient Dieu de tout leur cœur, ils aimaient le Seigneur Jésus. Et puis on vient lui dire, celui que tu aimes est malade, c'est-à-dire Lazare. Jésus ne se déplace pas. Et au bout d'un certain nombre de jours, il décide d'y aller. Et il est mort. Moi, je me connais. On m'aurait dit, quelqu'un que tu aimes est bien malade, même encore avec mon âge, je saute dans la voiture et je fonce, peu importe les kilomètres. Jésus ne s'est pas dérangé. Il arrive, c'est tard. Ça fait déjà un certain nombre de jours qu'il est dans le tombeau et il sent. Que fait Jésus? Amenez-moi là où il est. Il y a une pierre devant le tombeau. Il roule la pierre et puis Jésus s'adresse aux morts. Et il dit, Lazare, sors! Et le mort ressuscité, il sort. Ne pas me dire que ce n'est pas vrai, parce que la Bible nous dit que les gens religieux de l'époque, les pharisiens et tout cela, non seulement voulaient mettre à mort Jésus, mais également Lazare, qui était un témoin gênant. Vous voyez, ça semble une folie. Chaque fois que Dieu parle, ça semble une folie. Et pourtant, c'est ce que Dieu fait. Car ce qu'il dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dans le fond, nous sommes là pour quoi? Non pas pour essayer de réfléchir à notre intelligence à ce que Dieu dit, mais pour croire ce qu'il dit. Un jour, on raconte l'histoire de cet homme qui est allé voir une galerie de peinture dans une ville où il passait. Puis il a regardé un tableau, un autre, comme ça. Il a tous regardé. Et puis il partait. Il a fait ça rapidement, son tour était très rapide. Et tandis qu'il s'en allait, il a dit en gardien un sortant, il a dit oh, « Pfff, je vois rien d'extraordinaire dans cette exposition. » Et le gardien l'a regardé et lui a dit « Monsieur, ici, ce n'est pas les tableaux qu'on juge, mais les gens qui viennent les voir. » J'ai bien aimé, parce que ici, ce n'est pas la parole qu'on juge, mais ce sont ceux qui viennent écouter la parole. Parce que la parole, c'est la parole de Dieu. Elle est oui et amen. Et même si ça semble une folie à notre compréhension, à notre intelligence, ce que Dieu dit est vrai, réel, profond. Alors j'aimerais aller plus loin. Nous avons lu « Car la prédication de la croix, c'est une folie. » Dites-moi, comment croyez-vous que ça puisse être logique que de condamner son fils alors qu'on sait qu'il est innocent? Est-ce que c'est logique? Il y a des enfants au milieu de nous, il y a des parents, et surtout les mamans. Sortiraient leurs griffes. Mais les papas aussi. Vous accepteriez de condamner votre fils alors qu'il est innocent? C'est ce que Dieu a fait. Il a condamné Jésus, qui était innocent. Car dès qu'il s'est présenté publiquement, Jean-Baptiste, prophète, a dit « Voici l'agneau de Dieu. » Eh oui, sans défaut, sans tache. Qui ôte le péché du monde? Il ne pouvait pas être condamné. Il ne devait pas être condamné. Il n'aurait jamais dû être condamné. Je pense, c'est une folie. D'une part, de condamner un innocent. Mais c'est aussi une folie de pardonner des coupables. Si vous en pensez. Dans ma logique, c'est pas possible. Dans ma logique, il y a des lois, et celui qui transgresse la loi, à des degrés différents, mérite une désapprobation, une punition, un jugement. Vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, à la croix, c'est tout le contraire. C'est un innocent qui va être jugé et ce sont des coupables qui vont être pardonnés. C'est une folie de laisser persécuter, crucifier celui qui fait notre joie. Je me souviens de quelque chose qui m'a marqué avec une de nos filles. À un moment donné, il a fallu l'amener un soir aux urgences, etc. Il y a quelques années de ça, c'était dans la région parisienne, et une de nos jumelles. Et je me souviens, on voulait lui faire une perfusion, et celui qui a commencé à vouloir faire la perfusion, j'y étais présent, était peut-être un interne, ou je ne sais pas, mais il n'avait pas l'habitude, je ne le juge pas, parce qu'il faut apprendre. Mais je me souviens, il a piqué au moins 4 fois ma fille dans les veines, il n'arrivait pas à la trouver, alors tac, il enfonçait, il ressortait. J'étais à côté d'elle, je la tenais, je souffrais pour elle. Bon, c'est pas trop grave, mais laisser crucifier son fils, frapper, flageller, clouer, c'est une folie. Alors qu'il faisait les délices de Dieu, Dieu rendant témoignage de Jésus disait « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est même un pléonasme. « Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Pour dire combien Dieu aimait le Seigneur. Il faisait sa joie, ses délices étaient parfaits. C'était extraordinaire. Leur relation, leur intimité était particulière. La Bible nous dit « Il le laisse persécuter. » C'est une folie de laisser, après sa mort, son fils aller dans le camp de l'ennemi. Je m'explique. Après la mort, d'aller dans le camp de Satan, où il y a les anges déchus, les démons, les esprits mauvais, tout seul. Tout seul. C'est pas de la folie? Alors qu'il y avait des myriades d'anges que Dieu aurait pu envoyer. Il le laisse aller tout seul. C'est pas de la folie ? C'est une folie pour Jésus, à nos yeux, de se laisser mourir. L'homme cherche de plus en plus, dans la science, le moyen d'échapper à la mort. Or, je ne parle pas des opérations esthétiques, où on veut effacer les rides et toutes sortes de choses, qui réussissent ou qui ne réussissent pas, ça c'est pas mon domaine, ni mon problème, mais je ne parle pas de cela. Mais déjà, certains ont prévu de se laisser mettre dans le froid, à je ne sais plus combien au-dessous de zéro, espérant qu'un jour ou l'autre, ils trouveront un remède pour revivre. On fait tout pour être maintenu en vie. Et lui, qui avait le pouvoir d'échapper à la mort, lui qui est la vie, et la vie éternelle, il se laisse mourir. C'est pas de la folie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pour ça que je vous dis, la prédication de la croix, c'est une folie. Et dans ma logique, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas le réaliser, c'est comme l'aveugle, il ne peut pas comprendre ce que sont les couleurs. Je ne peux pas comprendre. Il faut que ce soit une révélation de Dieu qui vienne jusqu'à moi. Eh bien, tout ce que Dieu dit, c'est une folie. Que vous le vouliez ou pas. Et j'aimerais vous dire oui. Dieu est fou. Je mesure mes mots. Dieu est fou. Mais il est fou d'amour pour nous. Voyez la différence ? Il est fou d'amour pour nous. Son amour pour nous dépasse la vie de son fils. J'aimerais vous rapporter le témoignage que j'ai lu, que j'ai cité parfois dans quelques églises. Cela se passe dans une petite église aux États-Unis. C'était lors d'un culte, le soir, vers 19h. Il y avait le pasteur de l'église qui était là, et puis il a commencé par quelques chants. Et ensuite, il a dit, nous avons au milieu de nous un pasteur retraité. Il nous visite. J'aimerais lui laisser la place pour qu'il nous dise quelques mots. Et le pasteur de l'église d'ajouter, c'est un pasteur qui m'est cher. Cet homme s'est levé. Il a salué l'église et voilà ce qu'il a dit. Je connais un homme qui un jour est parti avec son fils et le copain de son fils faire un tour en bateau sur l'océan. Et tout d'un coup, le temps a changé. Un vent de tempête a commencé à souffler. Et ils n'ont pas eu le temps de regagner la terre. Et bien vite, les vagues devenaient énormes. Leur embarcation était trop fragile. Et tout d'un coup, la barque s'est retournée. Et tous les trois ont été jetés dans l'eau. Et les vagues devenaient de plus en plus fortes, plus en plus hautes, violentes. Et la mer a tiré vers le large les deux jeunes gens. L'homme, lui, le papa de l'un des deux garçons était resté près de la barque et il voyait ces deux jeunes gens qui étaient entraînés par les flots et il s'est rappelé qu'à la barque il y avait une corde qui était attachée et il a dit je vais lancer la corde à un de ces deux jeunes gens et il a attrapé la corde et il a regardé son fils et il a dit à son fils mon fils je t'aime et il a lancé la corde au copain de son fils. Le compère de son fils a saisi la corde et il l'a tirée. Et ils ont remis la barque dans le sens qu'il convenait. Mais le fils, il ne l'a jamais revu. C'est tout ce qu'il a dit. Et sur le devant, il y avait deux jeunes adolescents. Ils attendaient la suite, mais il n'y a pas eu de suite. Le prédicateur à la retraite est allé s'asseoir. Et puis le pasteur de l'église a prêché. Et à la fin, les deux jeunes sont allés trouver le vieux prédicateur. Ils lui ont dit, c'est pas vrai cette histoire. Et il a dit aussi, elle est vraie. Il dit, mais c'est pas possible. Vous n'allez pas me dire qu'un homme a sacrifié son fils, qui était croyant, en pensant que l'autre serait sauvé un jour. Elle a dit, si, cette histoire, elle est vraie. Et je comprends alors l'amour de Dieu à notre égard. Et les deux jeunes gens lui ont dit, c'est pas possible. Et il a ajouté, l'homme qui a fait cela, c'est moi. Et le copain de mon fils, c'est votre pasteur. Je me pose la question. Moi, j'ai des filles. Bon, ma femme et moi, bien sûr. Vous avez des enfants. Ce serait possible de faire une chose pareille? Je ne veux pas votre réponse. Moi, humainement parlant, c'est pas dans ma logique. C'est même pas dans mes sentiments. C'est même pas dans le cœur d'un père ou d'une mère. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une folie d'avoir envoyé Jésus pour nous sauver. C'est une folie. Voilà pourquoi la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne sont pas éclairés par Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous réalisons l'amour de Dieu à notre égard, nous des pécheurs. Nous indignes, et plus nous avançons dans la vie, plus on se sent indigne. Nous qui ne méritons pas d'être acceptés par Dieu, eh bien Dieu a sacrifié son Fils pour nous sauver, nous. C'est une folie. Oui, c'est une folie. Excusez-moi de ce que je vais dire. Il fallait que Dieu soit fou pour sauver Michael. Fallait que Dieu soit fou pour sauver Jérémie. Fallait que Dieu soit fou pour me sauver. Puis vous pouvez mettre chacun de vous. Dieu est fou d'amour pour vous. Et voilà ce que dit l'Écriture. Dieu a tant aimé le monde. A tant aimé. Un autre passage dira, Dieu a fait éclater son amour envers nous. Éclater. Dans un autre endroit, la parole, il dira, Dieu nous a aimés le premier, de manière gratuite. C'est ça la folie de la prédication. Tu ne mérites pas d'être sauvé. Bien au contraire, c'est Jésus qui aurait dû être privé de la mort. C'est nous qui aurions dû mourir. Mais Dieu nous a tant aimés que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quelqu'un a dit, un prédicateur, qui a dit ceci, le point faible de Dieu, ah, il y a un point faible, le point faible de Dieu, ce sont ses compassions. Dieu est amour, c'est ce que nous avons chanté. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. J'aime bien ce passage dans Ésaïe, le prophète, chapitre 43, verset 4, il est dit, « Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids et je t'aime. » On ne parle pas du poids physique, hein. « Tu vaux cher à mes yeux, tu as de la valeur, tu as du poids, tu représentes la vie de mon fils. Voilà pourquoi je te cherche, voilà pourquoi j'ai tendu les cordages vers toi, voilà pourquoi depuis si longtemps j'ai mis des personnes sur ta route, voilà depuis si longtemps pourquoi je t'ai protégé. » Tu en sois conscient ou non, je t'ai protégé lors d'accidents ou autres, parce que je t'aime, tu vaux cher à mes yeux. C'est l'amour de Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Et la Bible nous dit, si nous l'acceptons, si nous croyons en l'amour de Dieu, en demandant pardon pour nos péchés, parce que nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume du Fils de son amour, avec de mauvais sentiments. Je ne peux pas rentrer dans le royaume du Fils de Dieu, Jésus, qui est rempli d'amour. Je ne peux pas y rentrer avec de la haine. Je ne peux pas y rentrer avec de l'animosité. Je ne peux pas y rentrer avec de l'orgueil. Je ne peux pas y rentrer avec de l'arrogance. Je ne peux pas y rentrer avec de la violence. Je ne peux pas y rentrer avec mes péchés. Il faut que je sois purifié. Et c'est pour ça que Christ est mort. Son sang nous purifie de tout péché. Alléluia. Et si nous sommes pardonnés, si nous nous sommes repentis devant le Seigneur, pardon Seigneur pour ma vie, pardon pour mon endurcissement, pardon pour ma résistance, pardon pour mon incrédulité, pardon pour mon fort orgueil, pardon pour mon aveuglement, pardon Seigneur, je comprends maintenant l'amour de Dieu, je te donne ma vie. Alors, son pardon va nous être accordé. Son amour va descendre en nous. Nous serons transformés en un instant. Nous serons changés. Nous deviendrons une nouvelle créature. Est-ce qu'il était incompréhensible avant ? Deviendra tellement évident, facile et logique. Pour moi, la parole, elle devient facile. Je ne sais pas comment vous en êtes. Parfois, il y a des passages qui me semblent encore obscurs, surtout si je parle d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Mais pour l'instant, ce qui est nécessaire à mon salut et jusqu'au retour de Jésus, ça va, je l'ai bien compris, ça me suffit. Le reste, ce qui se passera une fois que moi j'y serai plus, c'est aux autres d'y calculer. Mais la parole, elle devient si simple, si claire, si limpide, parce que Dieu m'a donné une vue spirituelle, une vision nouvelle des réalités et des valeurs. Et j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Et c'est parce qu'il est inquiet de votre destinée qu'il vous parle sans relâche. Mais comme dit la Bible, ne négligeons pas un si grand salut. Ne méprisons pas, ne foulons pas sous nos pieds l'amour de Dieu. C'est lui le plus inquiet. Je l'ai eu dit, je m'excuse de le répéter, au temps où nos filles étaient encore toutes jeunes, nos deux dernières, les jumelles, étaient avec nous, nous étions en vacances au bord de la Méditerranée et le samedi matin, nous avions décidé d'aller faire les courses au marché. Vous savez qu'il y a du monde hein, sur les villes, en Bordeaux, il y a beaucoup de monde. Et puis, je ne sais pas comment ça nous est arrivé, nous avons perdu nos jumelles. On l'a cherchée, on ne la voyait plus. Alors, nos deux filles aînées sont allées d'un côté. Ma femme a pris la troisième, et moi j'ai pris l'autre jumelle. Et on s'arrêtait partout. « Pardon, vous n'avez pas vu une petite fille comme ça, les cheveux de telle couleur ?» Personne ne l'avait vue. On demandait aux gens, on demandait aux commerçants, on demandait à tout le monde, personne ne l'avait vue. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui se passait là-dedans. Et là-dedans, et dans le cœur de la maman, dans le cœur des sœurs et dans le cœur du papa. Et à un moment donné, en cherchant dans une rue, tout d'un coup, je vois deux gendarmes qui tenaient tous les deux une petite fille par les mains. Bien sûr, j'ai reconnu ma fille de dos. Et je l'ai appelée. J'allais y appeler son nom. Non, je ne le fais pas. Hein. Et je l'ai appelée. Alors elle s'est retournée, elle m'a vue, elle a dit au gendarme, c'est mon papa. Elle n'était pas inquiète, elle s'était perdue, elle ne nous avait plus vus. Elle avait vu les gendarmes, elle était allée les voir, elle a dit, voilà, je m'appelle Intel Galifaux, mes parents sont au camping du Petit Mousse. Elle avait tout dit, je les ai perdus. Elle n'était pas inquiète. Nous, nous étions inquiets. Peut-être que tu n'es pas inquiet de ta situation. Peut-être n'es-tu pas inquiet de ta vie actuellement. Mais j'aimerais te dire, Dieu s'inquiète. Parce que si tu ne te tournes pas vers lui, c'est la condamnation, c'est la mort. Alors Jésus serait mort en vain. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. C'est une puissance de Dieu. C'est ce qui a changé nos vies. Alléluia. Oh, que Dieu puisse nous aider à comprendre qui nous pardonne de tout péché. Tout. Et quelques années de cela, à la sortie d'une réunion, c'était un soir, je m'en souviens, c'était en été, la réunion du soir, il faisait encore jour, il y avait tout à fait au fond quelques jeunes qui étaient sur la dernière rangée, pendant que je prêchais, je les voyais, et ils se moquaient, ils riaient. Et à la sortie, la jeune fille qui était plus grande que moi, elle passe une furie. Elle va dans la rue, elle allume une cigarette, elle la fume. Après l'avoir fumée, elle revient vers moi, elle se planque devant moi, puis elle était plus grande que moi. Hein. Ok, il n'y a pas de difficulté. Elle me regarde, elle croise les bras, puis elle me fait « Monsieur, je vous hais !» Textuellement. Alors moi, j'ai regardé, j'ai dit « Moi, je vous aime. Et Dieu vous aime !» Elle est partie. Et quelques temps plus tard, cette même jeune fille me téléphonait. Est-ce que je pourrais venir vous voir? Et Dieu l'a sauvée. Il y a quelque temps, quelqu'un a mangé avec elle, me téléphonait en me disant elle est restée fidèle au Seigneur. Pourtant, elle est passée par des épreuves. Dieu l'aimait. Et Dieu l'aime. Quel que soit notre passé, je ne veux pas le savoir, votre passé. Je connais votre présent. C'est que Dieu vous aime. C'est que vous valez cher aux yeux de Dieu. Et il veut inscrire votre nom dans le livre de vie. Il veut vous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Alors, la prédication de la croix, c'est une folie. N'essayez pas de l'analyser, de la comprendre. Pas plus que vous auriez pu comprendre comment Dieu aurait délivré Israël de l'emprise de Pharaon. Pas plus que vous pouvez comprendre comment d'un homme de 100 ans, d'une femme de 90 ans, ait pu naître un si beau garçon qu'Isaac. Pas plus que vous pouvez expliquer ces choses-là. Vous ne pourrez pas expliquer d'une manière parfaite le salut de Dieu. Mais vous saurez une chose, c'est que Dieu vous a aimé le premier. C'est que son amour a débordé de son cœur au point où il a accepté de sacrifier son fils à votre place. Vous pardonnant et maintenant vous accueillant. Il vous suffit de le croire, de l'accepter, de dire « Seigneur, je viens ». Et alors, le miracle s'accomplira en fonction de ce que vous allez croire. Moi, je crois que Dieu vous aime. Moi, je crois que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Pas la valeur matérielle des cheveux que nous avons sur la tête, parce que nous les tombons. Pas la valeur des dents que nous avons, parce qu'à un certain âge, elles tombent ou on en met de nouvelles artificielles. Non, pas cette valeur matérielle, la valeur de votre personne. Voilà ce que Dieu aime. Est-ce que ce soir, vous voulez accepter que le Seigneur vous sauve et dire à Jésus, je te donne ma vie. J'avais jamais pensé que ce Dieu qui est si grand, si extraordinaire, ce Dieu qui a tout fait, tout créé, puisse s'intéresser à moi. Que suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Je terminerai en disant ce témoignage de Jean-Charles. Ma femme doit s'en souvenir. Jean-Charles, à 4 ans, était déjà abandonné dans la rue. J'ai bien dit 4 ans, en Savoie. Il a vécu dans la rue. Ça paraît incroyable dans notre pays de France, et pourtant c'est la réalité. Abandonné. Il a vécu dans le milieu de la drogue, dans la boisson. Vraiment un gentil garçon, un brave garçon. Il a été poignardé plusieurs fois. Il n'y avait personne. Et un jour, nous avons un chrétien qui l'a pris en stop et qui lui a parlé du Seigneur. Et je me souviens, un soir, il est venu. Il a écouté l'évangile qui commençait à travailler son cœur. Et puis, il est passé dans une boutique, une quincaillerie, et il a acheté une chaîne. Et le soir, il a accroché la chaîne à la poutre. Il vivait en haut d'une maison, un grenier plus ou moins aménagé. Il a attaché la chaîne à la poutre dans une certaine intention que vous comprenez, je ne veux pas dire le mot, avec les enfants. Et il s'est rappelé qu'il y avait une réunion. Et il est venu à la réunion. Et ce soir-là, l'amour de Dieu l'a saisi. Il est venu souvent nous aider dans un certain domaine. Il a donné son cœur au Seigneur. Il s'est marié. L'amour de Dieu. C'est une folie, la prédication de la croix, pour ceux qui ne veulent pas croire. Mais pour nous qui avons cru, c'est une puissance de Dieu qui a changé nos vies. Alors, dans cet après-midi, est-ce que tu veux accepter ce message de l'amour de Dieu? Ça paraît une folie, mais crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la puissance de Dieu. Crois et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Crois, ton existence sera changée et transformée. Crois, une vie nouvelle va s'opérer en toi. Crois, le ciel va s'ouvrir au-dessus de toi. Crois simplement en Jésus et en ce qu'il a fait pour toi. Il est la révélation de Dieu. Alors tes yeux vont s'ouvrir et tu verras les choses d'une manière tellement différente. Ce qui t'entoure sera différent. Les gens qui t'entourent, tu les verras différemment. Je dirais, les personnes même qui font le mal, tu les verras différemment. Tout ce qui touche la terre, tu le verras différemment. Tout ce qui touche le spirituel, tu le verras différemment. Le Seigneur veut te transformer, toucher, changer ton esprit, ton âme et ton corps. L'œuvre de Jésus, c'est une restauration complète et totale. Corps, âme, esprit. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi nous aimons parler de Jésus, parce qu'il nous a sauvés à nous. Je sais de quoi je parle. Notre frère Jérémie, qui a parlé tout à l'heure, sait de quoi il parle. Notre frère Michael sait de quoi il parle. Plus exactement, pardon, de qui ? Je me reprends. De qui il parle ? Nous savons de qui nous parlons. Je sais que Jésus est le Fils de Dieu. Je sais qu'il est mon sauveur. Je sais qu'il veut être ton sauveur. Je sais qu'il t'aime. Et je sais qu'il est prêt à agir et à manifester sa puissance de vie et de résurrection dans ton corps maintenant. Si tu le veux, prions quelques instants le Seigneur. Alléluia. Seigneur, quand nous lisons ta parole, c'est vrai que la prédication de la croix semble une folie à notre raisonnement, à notre logique. Mais je te loue et je te bénis, parce que la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu mise en œuvre pour sauver le plus vil des pécheurs. Merci Seigneur pour les gens qui sont dans ce lieu cet après-midi, que tu aimes, auxquels tu t'adresses, que tu veux voir transformer, changer, à qui tu veux donner une espérance. Seigneur, je te prie de les visiter. Ouvre-leur les yeux, afin qu'ils passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Merci Seigneur pour le sacrifice de Jésus. Merci pour l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et je sais que pour ceux qui t'appartiennent, rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Merci de les bénir. Et maintenant, comme tu réponds aux besoins spirituels, aux besoins matériels, réponds à leurs besoins physiques. S'il te plaît, Seigneur. Tandis que nous restons quelques temps, quelques instants encore, dans le recueillement. Y a-t-il une personne cet après-midi ? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait s'approcher afin que l'on prie avec lui ? Une personne qui voudrait que l'on prie avec elle, quel que soit le besoin, soit parce qu'elle veut être sauvée dans son âme, soit parce qu'elle veut que Dieu l'aide, même matériellement, soit parce qu'elle a besoin de guérison ou de délivrance intérieure. Et Dieu l'aime et veut la délivrer et guérir. Peut-être une telle personne pourrait s'avancer. Et nous allons prier au nom de Jésus cet après-midi même. Approchez-vous, s'il vous plaît, maintenant. Nous allons le faire avec les frères bien-aimés qui sont dans le ministère. Je vais leur demander de s'approcher. Vous qui avez besoin, venez maintenant. N'hésitez pas, n'attendez pas. Selon votre foi, approchez-vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que maintenant ait lieu la libération, la victoire dans vos vies. parce qu'il vous aime, tout simplement, et je crois dans l'amour de Dieu qui est parfait. Alléluia. Vous vous approchez. Ce Dieu auprès duquel vous avez de la valeur, va intervenir. C'est le moment de délivrance, c'est le moment de libération, c'est le moment de guérison. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur.